Fréquence Mistral.
Bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos studios Ashraf. Ashraf, c'est un artiste de scène, un comédien d'art dramatique, de théâtre classique et contemporain, mais aussi un stand-upper, un humoriste reconnu sur la scène marseillaise qui écume les planches depuis 2021 déjà. Fondateur d'un comédie club à Marseille, organisateur d'événements, il arrive aujourd'hui avec un spectacle, son premier seul en scène, Tout/Seul. Voilà, je précise le slash parce que c'est important, on en parlera plus tard. Bienvenue à toi, Ashraf, dans les studios de Fréquence Mistral.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup.
C'est un plaisir de te recevoir, Ashraf. On va commencer par la question maintenant classique qu'on pose à tous les humoristes, c'est est-ce que tu peux nous raconter ta première scène de stand-up? Comment tu as débuté le stand-up?
Oh, ma première scène, c'était... Je jouais encore au théâtre, rien à voir. Moi, le stand-up, c'est un truc... qui me venait en tête, mais en fait, je l'ai toujours idéalisé, le stand-up. Moi, pour moi, plutôt, je dirais, la scène. Quand je regardais, je sais pas, moi, j'avais accès à des cassettes à l'époque. Moi, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi. Donc, quand j'étais petit, je tombais sur des cassettes, des inconnus, Gad Elmaleh. Et moi, je les regardais en boucle. Je les regardais en boucle parce que ça me fascinait de ouf. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours, qui m'a parlé tout de suite. Mais quand j'étais petit, mais après, plus tard... c'est un truc que je voulais faire au fond de moi. On m'a toujours poussé à ça parce que le rire, c'est pour moi le... Bref, je vais loin dans le sujet, mais tout ça, ça a son importance quand même parce que moi, je me redirige vers la scène passé un temps, vers mes 22-23 ans, parce que j'ai essayé plein de boulot, mais j'ai finalement perdu beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est ça que je voulais faire et que je devais faire, en fait, finalement. Et j'avais ce syndrome un peu de l'imposteur. Je me voyais pas aller sur scène faire rire avec un micro... sans avoir compris ce que c'était que la scène, parce que j'idéalisais tellement ce métier qu'il fallait vraiment que je comprenne déjà ce que j'allais faire et que je prenne mon expérience. Donc ma première scène, elle s'est faite après, quoi. C'est pas faite au début, donc c'est pas faite dans les mauvaises conditions, parce que j'avais déjà la rigueur du travail au théâtre, de comment travailler les textes, les interprétations, tout ce travail d'analyse. Donc moi, j'arrive... pour écrire une scène, à la base, c'est un pote à moi qui jouait, qui à chaque fois, vu qu'il était avec moi au théâtre, souvent nous on rigolait en dehors des scènes, parce que c'était tellement sérieux que moi à chaque fois, il fallait que je passe une journée en rigolant, on tapait des barres, et il me dit mais viens au Comedy Club du Vieux-Port. Je lui dis ben vas-y, tu sais quoi, je viens. Donc je viens, j'assiste à une scène comme ça, et puis la programmatrice qui est là ce jour-là, il dit ben écoute, il veut venir jouer, il est très bon. Bon, il m'a vendu comme il faut. Pourtant, moi, je n'ai jamais fait de scène. Stand-up, entre guillemets. Et je dis, OK, ben, demain. Donc, je me mets devant le, tu sais, le défi.
Oui, vraiment, du jour au lendemain. Tu n'as même pas mis une semaine, deux semaines, non, vraiment direct.
Devant le fait accompli. Alors, ce jour-là, par contre, c'est particulier parce que j'ai tout le temps l'habitude d'écrire, de jouer des textes qui ne sont pas les miens. Mm-hmm. Donc, de les comprendre, de les apprendre, de faire toute cette recherche. Là, finalement, c'est un texte qui doit venir de moi. Donc, il y a la page blanche. Il y a ma femme à côté de moi qui me dit, bah, écoute, tu sais quoi, je vais t'écrire un truc. Ma femme, elle m'écrit un texte. Elle me dit, écoute, au moins, t'as ça et tu vois ce que tu peux faire avec. Donc, moi, je suis en pression parce que je me dis, merde, là, en fait, il y a des rires. Parce que là, on arrive à l'expérience de être drôle, mais moi, je le prenais tellement au sérieux que je me disais, je vais pas venir juste comme ça en freestyle. C'est pour moi une insulte vis-à-vis de ça, qu'au moins, apprends un texte et essaye de le jouer. Ou ne serait-ce que de raconter une idée intéressante.
Ouais, c'est parce que ça, c'est la déformation des cours d'art dramatique à Marseille.
Et puis j'arrive moi avec mon texte et tout, je pose le truc. Et bon, il y avait une belle ambiance parce que moi j'avais quand même les bases de la posture, du regard, c'était détente et tout. Et à la fin, je finis mon texte. Bon, ok, c'était ma première scène. Et je me dis, merde, j'ai joué un texte, mais c'était pas moi.
Ouais.
Du coup, je dis, bon, demain, réinscris-moi, je reviens demain. Donc du coup, elle m'a réinscrit le lendemain et là, j'ai joué mon texte et c'était 100 fois mieux. Mais,
ah ouais, donc t'as pu faire deux scènes en deux jours débuts de stand-up. C'était vraiment le début sur les chapeaux de roue. Dès le départ, on attaque fort.
Non, mais après, bon, j'ai été bien vendu, mais puis ils savaient aussi que voilà, j'avais un souci de texte parce que je l'écrivais le matin même pour le soir même, tu vois.
Ouais, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il y a peu de monde qui le fait aujourd'hui dans le stand-up.
Après, c'est devenu ma rigueur au bout d'un moment.
Okay, ouais.
Au bout d'un moment, c'était rigoureux. Enfin, je le faisais tous les jours et après, les gens me disaient, mais non, mais on fait pas comme ça.
Ah oui, oui. Il faut répéter pour arriver à
c'est ça.
Sortir le nectar de ce qu'il y a de meilleur dans ton 5 minutes et à garder les gouttes les plus hilarantes. Ouais.
Je dirais qu'il y a du bien aussi en faisant ça parce que le fait de travailler toujours sur un texte frais, ça te donne une possibilité aussi de tout le temps le raconter pour une première fois. Parce que ce qu'on nous demande à chaque fois quand on a un texte qu'on rôde, c'est de le faire découvrir au public et le découvrir en même temps comme si c'était la première fois.
Ouais, ouais.
Et du coup, moi, je pense que ça amène une spontanéité qu'on perd souvent après à faire trop de rodage de même texte.
Et oui, oui, effectivement, mais ça, c'est plusieurs écoles dans le milieu du stand-up.
Ouais, carrément.
Y a tout est bon et tout est mauvais à la fois, et tous les conseils sont vrais et tous les conseils sont faux à la fois. C'est ça qui est merveilleux avec le rire. Tu parles donc de tes débuts, mais là, aujourd'hui, on arrive dans une étape de ta carrière qui va être importante, c'est que tu vas faire ton premier seul en scène. Donc avec ce premier seul en scène que tu as nommé tout/seul, bon, déjà j'ai un questionnement, c'est pourquoi ce titre tout/seul, parce que ça questionne.
Ouais, carrément. Ben, ce spectacle à la base il va aborder une tranche de ma vie importante, c'est avant le stand-up, du coup, juste avant même le théâtre en fait. C'est cette tranche de mes 20 à mes 25 ans. Ou quand je parle de tous seuls, c'est qu'en fait, on a souvent l'impression d'être entouré, d'être avec beaucoup de personnes. Mais finalement, on a toujours ce sentiment d'être seul, incompris, de ne pas vraiment savoir qui on est, d'être dans cette quête finalement. Et c'est souvent l'extérieur qui nous donne un peu des indices de qui on est finalement. Parce que souvent, on a peut-être une mauvaise image de soi. C'est un peu difficile de s'accepter. Des fois, on arrive à un âge où on se cherche. Et... quand on est avec des gens, on a des fois l'impression d'être entouré, mais en fait, on se sent seul profondément.
Mmh.
Et l'idée de tous seuls, c'est aussi une façon aussi de faire aussi un miroir avec le monde autour de nous, où on a beaucoup l'impression voilà, de devoir faire partie d'un camp à chaque fois, d'être tous ensemble. On ramène toujours à l'unité, mais pour moi, c'est un peu une hypocrisie parce que, en fait, dans le fond, les idées, les débats publics, enfin, tout est déjà pré-mâché. Donc, il n'y a rien qui vient finalement vraiment de chaque individu. Tout le monde donne son avis sur les réseaux facilement. On arrive avec des raccourcis très faciles. Alors qu'en réalité, je pense que il est bien d'être... Enfin, comme je le dis même dans le texte qui décrit bien le spectacle, c'est que... on a tous l'impression d'être ensemble, mais en réalité, on est tous seuls au fond. Parce que dans tous les cas, on est né tout seul et on va mourir tout seul, en fait. Et c'est en fait ça, finalement, que ça questionne.
Ouais, là, c'est là qu'on voit la formation du conservatoire d'art dramatique.
Ouais,
parce
mais on en rit, il y a des vannes et tout, non, t'inquiète.
C'est vrai que pour les auditeurs,
il est
drôle, hein, on vient
très,
pas pleurer.
Non, mais là, je raconte aussi
le
poids du comment, le fond, parce qu'il y a énormément de fond. Mais c'est toujours cette... En fait, j'ai voulu aussi créer ce spectacle avec l'idée du message, toujours. Parce que j'ai toujours cette idée de ne pas vouloir être simplement drôle pour être drôle.
T'as besoin d'un fil rouge derrière.
J'ai aussi cette notion de me dire qu'est-ce que je laisse derrière moi. Donc, je ne suis pas là juste pour appâter la galerie, faire rigoler des gens. Ce n'est pas forcément le premier. C'est que le rire peut servir à passer des messages, en premier lieu, et raconter... une tranche de ma vie, mais en même temps de mon opinion, de ma façon de voir les choses vis-à-vis de ce monde, en regardant un peu tout ce qui est incohérent. Enfin, on a des choses qui sont tellement qui nous passent tellement au-dessus de la tête. La guerre, par exemple, je questionne la guerre, je remets en question les origines, je remets en question un peu tout ça, parce que finalement, pourquoi en fait? Parce que à la base, on nous demande d'être responsable sur certaines choses, mais on a aussi ce droit de se dire on peut décider un monde différent de celui-là en fait.
Ouais, bien sûr, ou espérer en tout cas.
Ouais, espérer, mais déjà, même ne serait-ce que d'y penser, d'en parler, c'est déjà, je pense, une petite victoire, parce qu'à partir du moment où on est tous en train de se poser des questions, je pense que c'est déjà pas mal.
Ouais, de remettre en question tout ça. Donc, effectivement, toi, tu as une formation, comme j'ai dit, tu as une formation classique au travers de... actuellement, c'est le Beaux-Arts, mais avant, c'était le Conservatoire d'Art Dramatique. Tu es passé par des pièces de théâtre classique, du Shakespeare, du Molière, mais aussi des auteurs contemporains, dont j'ai déjà oublié les noms, puisque je ne connais rien au théâtre contemporain.
Tranquille.
Mais est-ce que c'est ce rôle, enfin, cette expérience en tant que comédien, presque professionnel, hein, je pense.
Oui, professionnel,
ça t'apporte quoi aujourd'hui? Ça t'apporte quoi et ça t'enlève peut-être quelque chose? Est-ce que tu... par rapport à ta carrière de stand-up aujourd'hui?
Alors moi, ça m'a apporté énormément de choses humainement. Mm-hmm. Déjà sur le plan humain, parce que la rigueur, le cadre de ce que m'a amené le théâtre de façon intensive, parce que déjà pour rentrer au conservatoire, bon, y a toute une panoplie de travail à faire avant, passer devant un jury, venir avec un texte à défendre, et puis après être pris ou pas. Mm-hmm. Mais après, justement, on rentre dans le vif du sujet, donc du travail. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience de son corps déjà, de l'espace, de notre respiration, de qui on est, et petit à petit a commencé à rentrer dans ce travail de sixième sens, j'appellerais ça un sixième sens, le sixième sens de l'analyse, de la compréhension, de la lecture de soi-même, de la lecture de ce qu'il y a autour de nous, et d'avoir conscience qu'on a un instrument qui est notre corps et on peut l'utiliser pour faire passer des messages, ou ne serait-ce que le message que à ce moment-là, l'auteur décide par le biais de personnages, en faisant passer, par exemple, dans des histoires, donc forcément, ou des pièces de théâtre. En fait, moi, ce qui m'a plu, vraiment, c'est cette rigueur de travail, où on ne fait que travailler, lire, se documenter sur la biographie de l'auteur, de pourquoi il a écrit cette pièce, dans quel but, dans quel objectif, lire la pièce pendant des jours et des jours, pour arriver finalement à pas comprendre encore ce que tu joues, et pour finalement, pendant que tu joues, essayer de trouver cette note, parce que le sentiment qui doit être véhiculé à ce moment-là, c'est incroyable. Enfin, pour moi, ça a été incroyable, parce que ça m'a permis vraiment de travailler de façon intensive, et en même temps de me connaître, d'aller au bout de mes limites à moi aussi. Et je trouve ça incroyable. Donc après, oui, je le suis toujours, c'est-à-dire après, j'ai arrêté moi de mon côté à faire ce que je faisais avant, parce que je me consacre au spectacle, c'est top.
Bah ouais, c'est génial. En tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est heureux de faire ce qu'il fait. Aujourd'hui, donc, comme je le dis, t'as écrit ce premier spectacle. Moi, j'ai toujours plaisir à demander aux auteurs de spectacles et de tout une anecdote sur la préparation de leur spectacle, que ça soit drôle, catastrophique ou sympathique. J'aimerais savoir un petit peu ce qui s'est passé pendant la préparation, si t'as quelque chose à nous raconter.
Pendant la préparation du spectacle, franchement, il y a tellement de choses, mais j'en ai pas plus que ça là qui me vient en tête. Des préparations, bon, après, ouais, j'écris, je joue, enfin, après, je suis à la maison, des fois, je teste des trucs. J'ai pas vraiment de choses qui me viennent.
Il n'y a pas un piano qui t'est tombé sur la tête avant une préparation, du coup?
Non, ça m'est pas arrivé encore. Non, grâce à Dieu, pas de soucis vis-à-vis de ça.
Les défis que tu as dû relever pour écrire ce spectacle, tu t'es confronté à quoi, justement? Parce que c'est toujours un challenge dans le stand-up, comme dans tous les arts, de construire un spectacle et de venir le présenter. C'était quoi pour toi tes principaux défis quand tu l'as préparé?
Ben, le principal défi, c'était déjà le combat avec moi-même sur toujours se questionner à chaque fois sur est-ce que c'est bon, est-ce que si, est-ce que ça, alors qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, il faut savoir s'arrêter sur soi-même, se dire en fait, moi, je vais être honnête avec moi, je vais me faire confiance, parce que être trop dans la technique, à trop chercher par obsession de trouver la bonne blague, la bonne vanne, le bon fonctionnement, etc., je pense qu'il y a des moments où il faut se relâcher et être en phase avec le public, parce que finalement on peut avoir une expérience réussie avec un public et se retrouver avec un autre public qui n'a rien à voir avec le premier public et avoir une expérience complètement différente.
Ouais, bien sûr, même pour les grands humoristes connus de tous, c'est le cas.
En fait, ça demande complètement, moi ça m'a demandé un lâcher prise total, et je me suis pas non plus fait trop mal parce que je me suis déjà fait mal avant. En fait, je raconte mes bobos précédents finalement. Donc, j'ai pas besoin de me faire mal pour chercher la substance, ouais. Tu vois. Donc, réellement, j'ai simplement restitué une partie de ma vie que j'avais besoin de raconter à ce moment-là, en fait.
Ah bah, écoute, justement, je t'avais demandé d'arriver avec un choix musical. On fait toujours une petite interlude musicale dans les interviews ici chez Fréquence Mistral. Et tu as proposé, je te laisse présenter l'artiste.
Les miens de Kerry James, incroyable, incroyable. La classique.
On va mettre ce titre de suite et on reviendra pour en parler et continuer l'interview. Merci à toi et on fait une petite pause en musique avec Kerry James, Les miens.
Et tous les gens de cité lèvent leurs mains. Tous les enfants d'immigrés lèvent leurs mains. Et tous les gens des quartiers chauds lèvent leurs mains. Et tous les gens des ghettos lèvent leurs mains.
les miens, arabes et noirs pour la plupart d'entre eux. J'ai grandi parmi eux, je connais leur histoire. Dans l'oubli de moi-même, j'ai écrit leur mémoire. Je les aime, je te prédis croire. J'ai tant chanté leur souffrance, ces Français pourtant étrangers en France. Je n'ignore pas que profonde est leur déchirure. La mienne, je tente de soigner par l'écriture. Bien sûr que j'ai en moi une part d'eux, bien que j'étouffe cette rage qu'ils cultivent en banlieue. C'est toujours de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Et tant de tendresse qui se manifeste de mes vœux envers ces habitants du quartier, banlieue, cité, trop cité, qu'on a souhaité lier à l'insécurité. Leur différence naît dans le regard des autres parfois. Conséquence, la violence est haute, je viens de la banlieue. Une France à part, et y'a pas que la distance qui nous sépare. La cité a ses codes, son langage, son silence, ses modes, ses méthodes et sa lecture du monde. Lève leurs mains, et tous les enfants d'immigrés. Lève leurs mains, et tous les gens des quartiers chauds. Lève leurs mains, et tous les gens des ghettos. Lève leurs mains.
C'est vrai que parmi les miens y'a des dealers, des tueurs, des braqueurs, des crapuleux, mais aussi des durs au grand cœur. Des étudiants, des patrons et des sportifs. Y'a des innocents et des fautifs. Nos rues sont pleines de talents cachés, transformés en talents gâchés. Sous-estimant la valeur du temps, je me pose une question. Les miens sont-ils naïfs ou inconscients? Lorsque l'envie domine la raison, je vois les miens en vie mais en prison. De toute façon, même libre, ils se sentent comme prisonniers. Rejettent le bon sens comme un fou que t'essaies de raisonner. Torturés par les regrets, je crois que les miens pleurent, mais en secret. Ils sont si loin qu'ils n'arrivent plus à revenir. Ce qu'ils voudraient être, ils n'arrivent plus à devenir. Ils refusent un avenir sans oseille, souvent victimes d'une adolescence sans modèle. En bas des tours, le temps leur échappe, leur vie se consume. Split pour bec, regard noir, avenir confus. Et certains tapent dans la coque, mais la plupart diront que c'est jamais eux, mais les autres. Combien de miens ne sont pas ce qu'ils voulaient être, ne font pas ce qu'ils voulaient faire, ne vivent pas ce qu'ils voulaient vivre. Ils se croient condamnés à l'échec, l'inégalité sociale comme prétexte. En fait, la délinquance, un héritage maudit que les plus vieux leur lèguent depuis leur plus jeune âge. Alors combien peuvent s'en sortir, construire, partir, ou alors partir, pour construire, pour revenir, pour reconstruire et instruire les nôtres.
Lève leurs mains et tous les gens des cités. Lève leurs mains et tous les enfants d'immigrés. Lève leurs mains et tous les gens des quartiers chauds. Lève leurs mains et tous les gens des ghettos. Lève leurs mains et tous les fils de prolétaires. Lève leurs mains, tous ceux qui se sentent solidaires. Lève leurs mains et tous ceux de la France d'en bas. Lève leurs mains. Lève leurs mains.
Ça me tue de voir les miens s'entretuer, tirer, tuer. Trop s'y sont habitués. Pourtant nos histoires sont les mêmes. Et quand on se fait face, on est comme face à face à nous-mêmes. On a la rage pour les mêmes raisons. On subit les mêmes exclusions. Reclus dans les mêmes quartiers, enfermés dans les mêmes prisons. Nos parents ont fait preuve du même courage, nous aiment du même amour. Alors pourquoi tu me dévisages tandis que les médias nous salissent? Que certains nous trahissent, complotent, rêvent en secret que la France nous bannisse. Dans leur bouche avant on était tous des voleurs. Maintenant dans leur reportage on est tous des violeurs. On violerait nos sœurs à plusieurs. On y verrait une justice, une fierté, un honneur. Tu sais ce qu'ils se disent, normal pour des extrémistes en puissance. La haine succède à la peur et eux veulent faire flipper la France. Frangin, lève ta main si t'as une sœur et tu la respectes. Lève ta main si t'as un frère et qu'il te respecte. Lève ta main si t'es conscient que la cité peut être un drame. Que tu sois un homme ou une femme.
Lève leurs mains et tous les gens des cités. Lève leurs mains et tous les enfants d'immigrés. Lève leurs mains et tous les gens des quartiers chauds. Lève leurs mains et tous les gens des ghettos. Lève leurs mains et tous les fils de prolétaires. Lève leurs mains, tous ceux qui se sentent solidaires. Lève leurs mains et tous ceux de la France d'en bas. Lève leurs mains, lève leurs mains.
Celle-ci, c'est pour tous les gens des quartiers, banlieues, cités, qu'on a souhaité lier à l'insécurité. Afrique du Nord, du Sud, Antilles, Europe, Espagnol, Portugais, la misère n'a pas de couleur. Au royaume des rêves brisés, des cœurs brisés, des sentiments maîtrisés. Quand ils ne sont pas méprisés, ton sens de la survie doit y être aiguisé. C'est en rage que les faiblesses sont déguisées. Les miens n'en ont pas l'air, mais ils sont épuisés. Les miens, je vais les représenter jusqu'au terme.
Et on revient donc tout de suite après ce titre de Kerry James. Donc Ashraf, pourquoi t'as choisi ce titre de Kerry James, les miens ?
Ah, c'est un message qui est percutant. En fait, c'est simplement parce que c'est ce que j'aime dans cette musique. Enfin, c'est aussi d'où on vient, parce que moi, je viens pas forcément, j'ai pas eu accès dans ma culture à l'art, au théâtre, à ce que je voulais finalement faire. S'enlever en fait des prétextes que tu peux avoir, qu'ils soient sociaux ou autres, c'est de se dire en fait, on a conscience finalement que oui. Il y a peut-être des formes de racisme, des soucis dans l'histoire parce qu'on n'a peut-être pas compris aujourd'hui où on se trouve, parce qu'il y a forcément on est un peu dans un trouble de ne pas trop savoir finalement la cause de l'immigration, qui est quoi. Moi en fait je me pose plus ces questions parce que je me suis dit à un moment donné, fais ce que tu as à faire, fais-le par donne-toi les moyens de le faire et enlève-toi les excuses. Parce que j'avais des amis à moi finalement qui se disaient toujours « Ouais, mais nous on n'a pas droit à ça, on pourra pas faire ça, c'est pas pour les gens comme nous on pourra pas. » Mais en fait, non. Et il faut pas se donner de prétexte. Tu veux un truc, tu vas et tu le fais. Et puis si t'as pas accès, ben donne-toi accès. Et une fois que t'as accès, ben apprends et sois curieux en fait, tout simplement.
Justement, la curiosité, c'est un des traits de caractère que souvent les enfants utilisent. Et je voulais te poser cette question. De mon point de vue, le stand-up, c'est un mélange de deux choses. C'est l'âme d'enfant qui vient rire de tout et le vieux sage en chacun d'entre nous qui vient dire non, ça c'est non, oui, ça c'est oui. Toi, comment tu fais pour cultiver ce vieux sage en toi et surtout cet enfant en toi pour venir rire avec les gens ?
En réalité, je pense à la cour de récréation. La cour de récré, c'est ce moment-là où l'adulte, à partir du moment où il ne doit pas t'étouffer ou faire une connerie, il n'a pas le droit de venir t'embêter. T'embêtes pas les autres, tu te bagarres pas, mais à partir du moment où tu es dans ton lieu d'expression, si tu vas dans n'importe quel cour de récré, même aujourd'hui, tu entends des cris.
Ouais,
bon, après, je crois que les collèges, c'est plus trop le cas, ou les lycées, parce qu'ils sont tous sur leur téléphone.
Ouais, c'est un peu plus tranquille maintenant, ouais.
Mais en règle générale, c'est là pour moi la base, c'est d'être dans la cour de récréation, de ne pas se donner de limites. Finalement au moment où c'est possible et ne pas se limiter en fait, parce que l'adulte il commence à un moment donné à mettre des limites à des endroits où tu commences à te brider finalement, alors que c'est pas le cas, ça doit pas être le cas dans notre métier finalement, on doit être des enfants, on doit rester enfant. Pour moi c'est l'enfant intérieur que je libère à 200%.
Ah bah écoute, justement, je voulais savoir si tu parlais de limites et de ne pas se brider. Est-ce que toi, tu penses, de ton point de vue, qu'il y a des limites à l'humour ? Est-ce que tu te fixes des limites lorsque tu viens rire avec le public ou pas ?
Alors moi, je les questionne beaucoup. Et je suis obligé de me dire que finalement, si ça devient complexe d'en parler, c'est qu'il y a un problème. Alors après, il y a deux poids de mesure à prendre parce que ça dépend des sujets. Moi, il y a des sujets qui ne me concernent pas. Si ça ne me concerne pas, je n'ai pas forcément la légitimité pour en parler. Quand bien même on me demande mon avis sur ça, moi le problème c'est qu'on m'ait posé la question finalement, parce que je n'ai pas à défendre des choses qui ne me concernent pas. Je vais donner un exemple, quand on me parle des genres, moi ça ne me concerne pas personnellement. Donc la question, moi je n'ai pas à me la poser. Moi je vais peut-être plus défendre des questions qui me concernent plus, mais je ne me mets pas de limite, c'est-à-dire au moment où ça ne me concerne pas, je n'en parle pas. Mais s'il y a des choses qui me concernent et
qui font
résonner quelque chose en moi, je vais en parler. Par exemple, sur les problèmes divergents entre plusieurs communautés, aujourd'hui, c'est quoi le problème ? Donc, on va se poser 2 minutes et on va essayer de différencier. C'est ce que j'en parle dans mon spectacle, d'ailleurs, entre la différence entre un juif et un arabe, finalement. C'est qu'il y a tellement, tellement de points communs que, en fait, la différence, elle est infime. Et finalement, pourquoi ? C'est de se poser la question à chaque fois. Et pour moi, l'impression que j'ai, c'est finalement de mettre des cases, de mettre des étiquettes. Parce que moi, j'ai vraiment du mal avec ça, les étiquettes. Parce que automatiquement, et ça a été un combat, c'est que moi, quand on me regardait, on me dit « tu viens d'où ?» C'était pas réellement pour être curieux, c'était pour savoir à quel endroit précisément. Parce que, exemple, je sais pas, toi, Yacine, tu viens d'où ?
Moi, je suis né à l'hôpital de Montpellier.
Ok, mais de quelle origine ?
J'adore répondre à ça. Veulent pas savoir ça. Ouais, mais bien sûr, je suis d'origine marocaine et essévenol, français et marocain.
Ok, il y en a la plupart du temps, tu vas avoir deux situations. Une personne qui va s'arrêter sur ça, et c'est 70% des gens, en général. Moi, c'est mon panel à moi, c'est mes statistiques. Et 30%, très rare, vont te dire « Mais où exactement, Maroc ?»
Ouais, oui, c'est ça. C'est
vrai, et vous mangez quoi là-bas ? Et il y a quoi là-bas ? Et t'habites où exactement ? Du côté mer, côté terre ? Ah, ok. Et là-bas, c'est quoi votre spécialité ? À partir du moment où tu me poses cette question pour avoir cette réponse-là, moi, je vais te la donner et on va avoir un enrichissement culturel. C'est cool, ouais, c'est génial. Mais si tu veux juste comme la viande, connaître la provenance, tu vois, pour savoir si elle est européenne ou si elle est de Roumanie. À la base, il y a un problème.
Ouais, t'es pas un steak haché, Ashraf.
C'est ça, c'est ça. On n'est pas des steaks hachés. Ok. Et les véganes.
Ouais, non, mais c'est vrai que je vois. C'est hyper intéressant ce retour justement sur l'identité que tu fais. Toi, t'as des sources d'inspiration parce que du coup, ça résonne, je pense, avec d'autres humoristes ou d'autres univers. Est-ce que t'as des sources d'inspiration qui te touchent?
À fond.
Pas forcément humoristique, hein, ça peut être d'autres univers artistiques ou autres.
À fond, elles sont diverses et variées. Mes sources d'inspiration, ça peut être les gens au quotidien, ça peut être une observation de la nature, ça peut être la musique, beaucoup. C'est musical. C'est-à-dire, ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous demande d'être en phase avec un texte et une attitude et une façon de le raconter, et une émotion.
Un rythme, ouais.
Et un rythme. Et Kerry James, moi, c'est un artiste qui m'inspire énormément parce que c'est quelqu'un qui a réussi de par son parcours à évoluer avec un message et une authenticité qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dilué dans les histoires aujourd'hui de « ouais, mais c'est pas le temps, la musique a évolué, donc il faut qu'on évolue ». Donc lui, il est resté digne de sa propre conduite et finalement, c'est des gens comme ça qui m'ont inspiré sportivement aussi. Beaucoup de gens m'ont inspiré. Zinedine Zidane, c'est quelqu'un qui m'a inspiré toute ma vie.
Il inspire la moitié de Marseille, je pense.
Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire de réussir à changer autant les choses autour de soi avec un seul ballon, c'est incroyable.
Ouais, bien sûr, ouais. C'est un personnage qui touche beaucoup de Marseille, je pense.
Ah oui, bah, c'est l'Olympique de Marseille aussi.
Ouais.
De voir finalement, c'est pas que les joueurs de foot, c'est toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Et de comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, je me questionnais souvent sur le vivre ensemble. On a un peu eu des problèmes là il y a quelques temps avec des extrêmes qui commençaient un petit peu à gagner un peu du terrain en France. Cette idée de gens qui se lâchaient sur les réseaux sociaux avec ouais, ça l'arrape, machin. Il y a beaucoup de gens qui se lâchaient finalement. Mais en fait, le seul endroit où tu trouveras pas ça, c'est au stade Vélodrome.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas avoir des musulmans, tu vas avoir des chrétiens, tu vas avoir des orthodoxes, tu vas avoir des juifs, tout le monde ensemble, des athées, tu vas avoir des non-genrés, des genrés, tout le monde en train de se prendre par les épaules et de sauter ensemble. Qui saute pas n'est pas marseillais, en fait. C'est ça le point de rassemblement, c'est la passion. C'est, je pense que vraiment, les gens racistes, pour ma part, ou les gens qui finalement créent un petit peu de désordre dans le monde, c'est les gens qui n'ont pas ce goût à la vie, en fait.
Ouais, ou ce goût à l'autre peut-être aussi.
Ouais, ou ne serait-ce que juste une passion commune. Parce qu'en fait, finalement, si on aime quelque chose de similaire, on oublie le reste.
Ouais, bah oui. Souvent quand on aime le même lieu ou qu'on aime le même club de foot, ça aide à se rapprocher.
Alors,
de quelqu'un.
Alors ça va dépendre, mais si je prends l'exemple de l'école. Et moi, je me rappelle quand j'étais enfant et que j'ai grandi à l'école Breteuil collée à la synagogue, une grande synagogue de la rue Breteuil, qui est connue même en France. Moi, dans ma classe, il y avait Nathanaël, il y avait plein de gens, il y avait Nathanaël, il y avait des Simon, il y avait des Ben Soussan, on était tous ensemble, il y avait des Christophe, des Lucas, des peu importe en fait. La réalité, c'est qu'on était dans la cour de récréation, on jouait tous ensemble et il n'y avait pas ces idées. On ne pensait pas tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, c'est on joue à quoi. Et c'était ça le plus intéressant, et moi je pense que la vérité sort de la bouche des enfants à partir de là, tu vois. Donc je pense qu'il faut rester des enfants.
Et tu continues à chercher des gens pour jouer à quoi tous les soirs sur scène
Ouais, après, il faut plus prendre la tête parce que l'histoire, par exemple, ça y est, c'est passé. Tu sais, à un moment donné, revenir dans le passé de ce qui s'est passé, c'est bien de comprendre d'où tu viens parce qu'il faut aussi avoir conscience de ça. C'est comme ça que tu peux savoir où tu vas. Mais après, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Là, l'histoire, il faut la construire. Il faut faire la suite, tu vois.
D'accord.
Donc, c'est au jour le jour. C'est aujourd'hui, tu construis ton histoire pour demain. Hier, ça y est, c'est fini.
Tu avances du coup. Comme j'ai dit, tu es aussi fondateur du Vauban Comedy Club et d'autres comedy clubs. Je voulais en parler avec toi parce que ça fait partie quand même de ce que tu fais dans le stand-up depuis 2021 maintenant sur Marseille. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus?
Me donner des détails.
Ouais,
bon, 2021, je débute le stand-up finalement. À partir de 2023, donc ça fait un an maintenant, je décide de monter à la base un plateau. Mais pour moi, c'est une façon aussi de pouvoir travailler des longs formats. Donc, je décide de le faire à Vauban, un quartier où j'ai grandi. Je le fais dans une salle de danse, c'est System Dance and Art Studio. C'est avec Nathalie Stey qui gère la salle de danse. Et moi, je la connais depuis petit. Alors, moi, je n'allais pas faire de la danse là-bas, mais avant, ils faisaient du judo, des copains à moi.
Okay.
Et finalement, c'est dans cette salle-là que j'ai décidé de m'installer et de créer un format un peu plus long de stand-up où on ramène deux artistes souvent qui font 30 minutes chacun ou 3 fois 20 minutes. Ça permet de travailler des longs formats. Et donc là, c'est une récurrente une fois par mois. Donc on fait ça, du coup, au début, c'était comme ça. Et en juin, le 5 juillet, j'ai fondé le Vauban Comedy Festival Stadium. Mm-hmm. C'était un concept assez inédit et particulier. En gros, c'était de réunir deux équipes d'humoristes dans le stade aussi où j'ai grandi. En fait, c'est là où finalement les vannes, pour moi, elles sont venues. Là où on m'a dit « t'es hyper drôle », c'est que nous, on jouait à l'époque le système de la gagne. Pour t'expliquer rapidement, chacun ramène son équipe. Ok, on est 5 contre 5. Donc, il y a 5-6 équipes. Le dimanche, tu ne pouvais pas compter. Des fois, il y avait 10 équipes. Et donc, tant que tu gagnes, tu restes sur le terrain.
Faisais la même chose avec mes potes.
Tu perds, tu te retrouves en dehors du terrain. Mais le problème, c'est que pour retourner sur le terrain, tu dois attendre que les 10 équipes aient perdu pour reprendre ta place. Donc moi, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait ? On se chambrait, on rigolait. Les vannes, elles sont nées là. Et il m'est venu cette idée de me dire, en plus de ça, le stade, il porte le nom d'un ami qui est décédé, Julien Baudon. Et il est resté le symbole de la jeunesse. Il est décédé en 2013. Et en même temps, en pensant à ça, en faisant les plateaux à Vauban, parce que c'est juste à côté du stade, je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas ça ? Donc l'idée du festival, la première édition, elle a eu lieu. Donc c'était voilà, de réunir deux équipes d'humoristes qui vont s'affronter sur une thématique, chacun avec son univers, et représentée par une équipe, tu vois. Et il y a un capitaine dans chaque équipe. Et l'idée d'aller au goal en premier, c'est toujours qui va passer en premier. Donc on a le ballon et on doit tirer la barre. Celui qui la rate, bah, du coup, il passe en premier. Et puis, du coup, tu vois, on revivait ce moment-là et de ramener le public. On a ramené 700 personnes sur le stade.
Ah, c'est incroyable.
Donc, ouais, non, c'était super. Et puis, c'était très émouvant parce que pour moi, la dernière fois que j'y étais, je jouais au foot quand j'étais petit. Et là, je reviens et j'ai revu aussi pas mal de gens qui ont tous plus ou moins eu des enfants et grandi. Ils sont venus avec leurs enfants en se remémorant les moments qu'ils ont passés avant. Donc, c'était hyper cool. Donc, ça sera chaque année. Et à côté de ça, oui, avec le Vauban, voilà, on travaille aussi sur plusieurs formats. Bon, l'idée avec le Vauban, c'est de prendre un contre-pied toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas d'avoir une scène comedy club classique. Mm-hmm. C'est aussi l'idée d'aller vers les gens, ramener la culture là où finalement elle n'a peut-être pas sa place, la questionner à des moments. Parce que là, par exemple, on va jouer dans un cinéma. Donc, un cinéma, ça s'y prête bien parce que techniquement, on a tout ce qu'il faut.
Un cinéma qui est où ?
Alors, c'est le cinéma du Prado. Ça va avoir lieu le 9 octobre.
Ok, super.
C'est, c'est le prochain événement qui va avoir lieu dans une salle de 321 places.
Ah oui, c'est énorme. Et avec des sièges de cinéma, donc les sièges bien confortables et tout. Ça nous change des bancs.
Incroyable, ça va bien se passer. On va être trois humoristes. Il y aura moi, du coup, Ashraf. Il y aura Merwan Sali aussi, un humoriste marseillais.
Un humoriste qu'on a reçu hier.
En plus de ça, il est venu hier. C'est un très, très bon Merwan. Et il y aura Fodier Sissoko qui vient de Paris aussi.
Oui. Plus de 100 000 followers sur les réseaux qu'on a vu sur scène et qui est très très bon. Alors, c'est pas les réseaux qui font l'homme, mais connu.
Faut dire ce qui est bien, c'est qu'il a eu à commencer dans les vidéos à la base. Il faisait beaucoup de vidéos à l'époque et c'était les débuts plus ou moins de. Je crois que c'est un des plus vieux youtubeurs aujourd'hui. Il faisait beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Snapchat, sur pas mal de réseaux. Et maintenant, il fait son spectacle aussi. Et l'idée là, c'était de se réunir tous les trois au cinéma. Et d'amener cette expérience vraiment au cinéma, comme une séance, finalement du pop-corn, et aller voir des humoristes, ça peut être cool. Et voilà, l'idée du Vauban, c'est un peu toujours prendre un peu à contre-pied, au même titre que là, on va faire nous un an le 12 octobre aussi, pareil, samedi. Okay. Et ça va se passer à la 14 rue Pointe-à-Pitre, pour donner l'adresse, je fais un peu de promo au passage.
Mais bien sûr.
Et on sera quatre humoristes cette fois-ci, il y aura moi, il y aura Moustazou, il y aura Merwan Sista.
Okay.
Y aura Miloud Harris.
Oui, de Nice, Miloud Harris.
Exactement,
ouais.
De Nice. Donc donc ça va être cool. Et moi, Ashraf, forcément, pour le quatrième. Et ça va être super cool. Et puis, il y a bientôt aussi d'autres projets qui vont avoir lieu avec le Vauban. Là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir les teaser tout de suite parce qu'ils sont en cours de préparation. Mais on prépare pas mal de choses et toujours avec cette idée de se représenter soi-même parce qu'on a aussi des fois des problèmes dans ce métier. Que j'ai remarqué, c'est d'attendre qu'on vienne te chercher, vienne te tendre la main. C'est un peu, j'ai l'impression, la génération casting. Tu sais, je vais faire plein de casting et on va voir si on va me repérer. Parce qu'on a toujours ce mythe de penser que Jean Reno, il a fait le film Le Grand Bleu parce que il a bousculé un mec. Je sais pas, il y a tellement de mythes dans cette histoire où Jean-Claude Van Damme, il a fait un grand écart dans un resto, il a fait Bloodsport. Il faut arrêter. T'sais, à un moment donné, il faut se faire ses propres choses et attendre que Paris, entre guillemets, l'élite, vienne chercher les Marseillais pour dire qui va être le bon ou pas le bon.
Oui,
moi, ça m'a cassé un peu la tête, un peu cette histoire. On se représente nous-mêmes, on fait les choses qu'on aime, on s'entoure de gens bienveillants et on fonce. Et on est des entrepreneurs, en fait. Parce qu'un humoriste, pour moi et pour ma part, c'est quelqu'un qui ose déjà monter sur scène, parce que beaucoup de gens n'ont pas ce courage d'affronter le public, un sujet, et de le défendre. C'est qu'il a déjà tout pour prendre des risques, ce mec. Donc forcément, il doit défendre sa tambouille. Donc à un moment donné, je prends une salle, je la remplis.
Ouais, bah oui, c'est ce que tu dis, hein. Les entrepreneurs et humoristes, il n'y a qu'un pas, parce qu'un humoriste aujourd'hui qui est au niveau, on va dire, bad ou classique de Marseille, bah c'est quelqu'un qui fait 50 000 choses à la fois dans la même journée. Il va gérer ses réseaux, gérer ses vidéos, gérer ses scènes, gérer son écriture, gérer sa promo, gérer son planning, gérer son organisation. Enfin, il y a un million d'items à prendre en compte. Et effectivement, ouais, je te rejoins complètement là-dessus.
Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Et puis surtout. S'enlever les freins qu'on peut avoir, parce qu'à un moment donné on a l'impression de ne pas, enfin je pense des fois il faut prendre des risques. Tu prends une salle, tu la remplis, et puis ça se fera pas du jour au lendemain. C'est pas les gens vont venir, ils vont dire ah il fait un spectacle, bon on va tous venir.
C'est incroyable. Oui, c'est de la promo, c'est du temps, c'est du bouche à oreille.
La bonne école, c'est le Festival d'Avignon. Festival d'Avignon va te montrer que la plupart des gens ils mouillent la chemise.
Ouais.
Ils n'auront pas juste se contenter de faire leur date, de mettre leur affiche et le soir d'avoir une salle. Tu auras zéro, c'est très concurrentiel. Il faut que tu te battes dans la rue, que tu donnes des flyers à tout le monde, que tu fasses même du spectacle dehors pour montrer aux gens que t'es hyper drôle. Et toute la journée ils font ça pour jouer le soir.
Ouais, bien sûr.
Donc pour moi, cette rigueur, je pense qu'il faut l'appliquer tout le temps, parce qu'à partir de là, ça te forge, ça t'aiguise et ça te permet finalement de n'avoir besoin que de toi, parce que finalement, c'est sur toi que tu mises, quoi.
Et on va terminer là-dessus parce qu'on arrive au bout de cet entretien. Mais du coup, rappeler, pour faire un petit coup de promo sur tout ça, Ashraf. Donc du coup, ton spectacle, Tous Seuls. Ouais, il faut que j'arrive à le dire bien. Ça serait quelle date et où?
Là, il y a la première qui a eu lieu au Vieux-Port, Comédie Club du Vieux-Port, qui est du rire.
Ouais, Comédie Club historique de Marseille.
Ouais. Ah ouais, c'est le premier Comédie Club. Ce Comédie Club, il est incroyable. Mis à part les autres comédie clubs qu'on a à Marseille, ça reste pour ma part le vrai comédie club marseillais, parce que tu vas avoir des passants qui vont venir, ils savent même pas, c'est des spontanés, tu vas avoir des gens qui ils savaient même pas ce que c'était un comédie club, ils se sont arrêtés, et t'as les gens de la France entière qui viennent. Donc tu réussis au comédie club Vieux-Port, normalement à 80% tu réussis dans toute la France.
Ouais.
Ça c'est mon expérience personnelle, après chacun la sienne, mais oui, après je vais jouer aussi logiquement à Aix-en-Provence, donc ça doit être confirmé normalement, et des dates pour 2025 aussi où je vais jouer un peu partout, au Vieux-Port aussi, je retourne normalement au Vieux-Port, et notamment peut-être aussi à Montpellier, à Nice, on va bouger un petit peu.
Ok, pour te suivre, c'est quoi sur les réseaux?
Ashraf, tout simplement, donc A-C-H-R-A-F 1.3. Voilà, pour 13. Voilà,
13 à Marseille, on connaît un petit peu, ouais. Donc on te suit sur les réseaux, on suit le Vauban Comedy Club.
Ouais, et le Ciné-Rire, ouais. Et le Ciné-Rire, ça va être cool mercredi, en plus jour de sortie de cinéma, à 20h, il n'y a rien à faire là, ça va être incroyable, il y a des places pour se garer. Voilà, on va être trois humoristes, la place ça coûte même pas 10 balles, donc franchement c'est encore moins cher qu'une place de cinéma, ça va être super intéressant de s'immerger en fait. En mode, voilà, on va assister à un comedy club dans un cinéma inédit, 320 places, donc logiquement, ça va résonner, ça va être cool, quoi.
Bon, on te retrouve donc au Ciné-Rire mercredi 9 octobre au cinéma L'Op du Prado pour le Ciné-Rire avec le Vauban Comedy Club. On te retrouve sur ton spectacle un peu partout en France et on te souhaite en France et ailleurs. Et merci d'être venu dans nos studios, Ashraf, et bon
merci
courage à toi et force à toi pour la suite de ta carrière.
Merci
Ashraf, excellente journée à toi.
Ciao.